Dans ce journal, on vous explique pourquoi le drapeau de l'ONU a été levé à l'Assemblée. On revient aussi sur la grève à l'OPT et sur la polémique qui entoure l'installation de la Tour des Juges à Théaoupo. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
Le pays et l'État ont levé pour la première fois les couleurs de l'ONU au Fénois.
Oui, cet événement souhaité depuis 2013 par Tony Géraud s'est déroulé ce matin à l'Assemblée, mais aussi à la présidence et au CESEC. Le moment n'a bien sûr pas été choisi au hasard, puisque le 24 octobre correspond à la date de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies, proclamée en 1947. Minari Galnon était présente au nom du président Brotherson, qui a brillé par son absence. Et dans son discours, elle a appelé la France à participer davantage au comité des 24. Les autorités de l'Assemblée et de l'État ont surtout prôné un message de paix universelle, un discours pertinent à l'heure des conflits en Orient et à l'Est de l'Europe. Pour le haut-commissaire Eric Spitz, il s'agissait surtout de réaffirmer haut et fort les valeurs que la France partage avec la Polynésie.
On croyait être à l'abri en Europe depuis bien longtemps de tous ces conflits. Et il faut jamais s'endormir, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il est vrai que la société polynésienne est encore porteuse de valeurs de partage, d'amour, d'entraide. On ne fait qu'un ici. Ce sont des valeurs qui sont un peu perdues en métropole et je crois que la métropole pourrait bien prendre la Polynésie comme exemple.
Et si le message de paix doit passer pour le président de l'Assemblée, cet anniversaire est aussi l'occasion de créer du lien entre la population et l'ONU. Les précisions de Tony Géraud, s'il est au micro de Vaitiare Pereira.
Depuis le temps que nous avons œuvré en faveur de la promotion, de la reconnaissance des actions de l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de la décolonisation, la population n'a jamais été présente. Elle a toujours été, grâce au concours de l'ancienne équipe, exempte de la discussion, de l'information, du débat. Donc aujourd'hui, on dit à la population, maintenant il faut venir assister à la conférence pour bien comprendre pourquoi, quel est l'intérêt que nous avons de promouvoir les instances de l'Organisation des Nations Unies, non seulement au niveau international, mais également au niveau régional.
Et pour y parvenir, une conférence publique sur la thématique des Nations Unies et de la Polynésie française a lieu en ce moment même à l'Assemblée. La population est fortement invitée à venir s'informer jusqu'à 16h.
Et l'actualité, c'est aussi la grève à l'OPT et il n'y a aucune avancée en vue.
Oui, hier matin, le tribunal de première instance devait se pencher sur le recours en référé engagé vendredi dernier par CSIP, CSTPFO et OOETO ERIMA. Par cette action en justice, l'intersyndicale veut dénoncer la signature de la convention signée plutôt par Atia Imoua et Otaï pour Farerata et Onati. Finalement, le dossier n'a pas pu être examiné hier en raison de l'absence de l'avocat d'Onati et l'audience a donc été fixée aujourd'hui. Moana Piatta-Rioe, déléguée syndicale CSIP à Farerata.
L'objectif, c'est surtout de voir que les dispositions n'ont pas été respectées, c'est-à-dire la consultation du comité d'entreprise, de voir aussi que les dispositions du Code du travail, qui citent bien que quand c'est signé par un syndicat minoritaire, c'est applicable qu'aux adhérents de ce syndicat. Et surtout au niveau de Sapote Farerata, la non-convocation en négociation et la non-transmission pour Sapote Farerata et Sapote Onati des projets finaux.
Et à noter qu'une rencontre a eu lieu samedi dernier entre la direction et les syndicats. Durant celle-ci, le conseil d'administration devait se prononcer sur la nouvelle convention de l'OPT et sur son protocole d'application. Il a finalement été décidé à l'unanimité qu'il fallait attendre le résultat des décisions en justice. Quant à la décision sur la nouvelle convention, elle a été repoussée au 27 octobre en espérant que d'ici là, le tribunal aura rendu sa décision. Si pour le moment la grève ne semble pas affecter l'activité de manière significative, du côté des grévistes, on parle pourtant déjà de retard.
Il y a des retards sur la réception des envois et il y a des retards aussi sur l'expédition des envois parce qu'il faut savoir qu'au centre de traitement, on reçoit les envois de l'international et on expédie des envois de la Polynésie vers l'international. Ensuite, quand on va dans les agences postales, c'est pareil, les encaissements de factures se font dans les agences. On a aussi tout ce qui est délivrance des envois dans les agences, la vente de produits aussi. Là, il y a un ralentissement.
Et de son côté, la direction parle pourtant d'une baisse du taux de grévistes qui serait passé de 35% jeudi à 32% hier. Selon elle, 70 bureaux de poste restent ouverts sur les 77 que compte l'OPT et toutes les boutiques de Vigny Distribution étaient ouvertes hier.
Liquidation judiciaire pour les deux Sofitel de Bora Bora.
Finalement, personne ne reprendra les deux hôtels de Fred Gray, pas même le groupe Royal qui avait été désigné en avril. Le tribunal de commerce réuni hier pour réexaminer les offres de reprise n'en a retenu aucune et a prononcé donc la liquidation judiciaire. Selon nos informations, l'état dégradé des hôtels rend à présent illusoire toute reprise des hôtels situés sur des terres en indivision et placés en redressement judiciaire en octobre 2022. Les explications de Caroline Perdry.
En avril dernier, le tribunal de commerce, qui avait considéré que 3 offres sur 6 étaient recevables, avait attribué ces 2 hôtels au groupe Royal, qui voyait notamment dans le Sofitel Marara la possibilité d'étendre le Royal Bora Bora qu'il possède déjà. Le prix de cette reprise était de 80 millions de francs, alors que la société de Fred Gray affichait un passif de 3 milliards, consécutif à des travaux de rénovation en partie financés par des avantages fiscaux qui sont à présent contestés par l'administration. 11 employés devaient être repris. Les autres candidats étaient un groupe saoudien domicilié aux États-Unis dénommé Arkan Hermes Santori, qui proposait 440 millions de francs, mais sans consigner au moins une partie de la somme en Polynésie, et New Marara, représenté par Teiva Raffin, qui proposait 30 millions. Pour le tribunal de commerce, à l'époque, seul le groupe Royal présentait des garanties d'exécution. Le 3 juillet dernier, la cour d'appel avait infirmé cette décision et enjoint au tribunal de commerce de réexaminer les offres à la demande de Arkan Hermes Santori, qui faisait valoir qu'il avait manqué de temps pour fournir les garanties nécessaires.
Et l'humeur a changé depuis. Ces hôtels fermés depuis 2019 pour l'un et début 2020 pour l'autre sont dans un tel état de dégradation que les offres de reprise apparaissent comme peu crédibles. Le tribunal de commerce a donc jeté l'éponge et prononcé le placement en liquidation judiciaire des 2 hôtels.
Et Paris 2024 répond à la polémique sur la tour des juges.
Oui, alors que les représentants locaux de l'organisation des épreuves olympiques de surf n'ont toujours pas communiqué, c'est le patron de Paris 2024 qui s'est exprimé. Tony Estanguet a répondu à la polémique lancée la semaine dernière par une vidéo du surfeur Matai Drolé qui expliquait que le projet de nouvelle tour des juges en aluminium était une catastrophe environnementale et ce pour seulement 4 jours de compétition. Alors Tony Estanguet a déclaré que la construction de cette tour était nécessaire en raison des normes. On le fait avec l'ambition de respecter l'environnement, assure-t-il. Il argumente en évoquant des études qui ont imaginé la meilleure méthode pour construire une nouvelle tour avec, dit-il, le moins d'impact possible pour préserver ce site. Au sujet des fameuses fondations et de la canalisation sous-marine qui cristallise les tensions, il y a aussi des recommandations sur le forage. L'ancien champion de canoë précise qu'elles ont été suivies par le gouvernement de la Polynésie française qui est en responsabilité dans la construction de la nouvelle tour. Si ce sujet n'existait pas, poursuit-il, on utiliserait la tour actuelle. Toutefois, l'ancien champion de canoë se dit prêt à faire un geste face aux contestations d'une partie de la population de la presqu'île. Malgré ces contestations, ce projet de... malgré les contestations sur ce projet de tour à 547 millions, le projet d'organisation des épreuves de surf n'est pas remis en cause selon Tony Estanguet. A noter que la pétition contre la nouvelle tour a été signée près de 90 000 fois.
Une fédération pour les Raoui est née.
Oui, lors du séminaire organisé lundi par la Fédération des associations de protection de l'environnement, Teora Naho, il a été décidé de créer un réseau des Raoui et des zones de pêche réglementées qui font face à des problèmes de surveillance et de respect des réglementations. Baptisée Te Marae Moa, cette fédération va bénéficier d'une subvention de lancement de 5 millions.
Et puis retour au Fénois où Francis Cabrel est arrivé hier soir.
Oui, 17 ans jour pour jour après son dernier concert en Polynésie, le chanteur est arrivé donc dans la soirée à l'aéroport de Faha. Invité par SA Production, Radio 1 et Tiare FM, il va se produire une nouvelle fois à Toata les samedis 28 et dimanche 29 octobre. L'artiste incontournable de la chanson française était visiblement très attendu par ses fans. Dès sa sortie de l'avion dans le hall de l'aéroport, le public attendait, collier de fleurs à la main, pour couronner, saluer ou photographier le chanteur et musicien aux plus de 40 ans de carrière. La troupe marquisienne Kapoutounoui avait d'ailleurs préparé une puissante cérémonie d'accueil, initiant le chanteur et sa famille à la danse de l'oiseau ou encore à la danse du cochon. Il me reste encore un peu de souplesse, a plaisanté l'artiste qui fêtera le mois prochain ses 70 ans. Francis Cabrel qui se produira donc samedi et dimanche soir sur la scène de Toata pour un double concert. Les billets pour le dimanche soir sont d'ailleurs toujours en vente sur ticket-pacifique.pf dans les magasins Carrefour et ici à Radio 1 et Tiare FM à Faréouté. En revanche, c'est complet pour le samedi. Et si vous souhaitez en savoir plus, retrouvez son interview qui sera diffusée jeudi à 17h sur notre antenne. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retour de l'actualité à 16h avec le flash de la rédaction.
Merci beaucoup Valdemar.
Coupe du monde de rugby 2023. On refait les matchs avec la Fédération Polynésienne de Rugby.
Et la Coupe du Monde, elle approche à sa fin, ça y est, Coupe du Monde de rugby bien sûr, puisque la finale aura lieu dans 4 jours, ça sera ce samedi 28 octobre, je suis avec Gilles Laffitte, directeur technique de la Fédération Polynésienne de rugby. Yolana Gilles.
Et Yolana Kevin, Yolana à tous.
Alors on a parlé hein, de cette affiche finale France. Non, elle n'y est pas la France. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, on en a parlé hier. On va parler d'abord de cette finale de bronze, Argentine-Angleterre. Alors, cette affiche quand même qui annonce cette troisième place au final de cette Coupe du Monde.
Ouais, bah écoute, les Anglais se sont construits au fil des matchs et ils ont fait une très belle prestation sur les demi-finales. Ils ont failli même vaincre d'un point puisque ça s'est joué un point face au box. Et je crois que ça va être un match très serré quand même. Attention à la Quinta, attention aux Argentins et que le meilleur gagne sur cette troisième place en tout cas.
Oui, toi tu vois quoi comme pronostic sur ce match-là ?
Moi je pense que les Anglais vont produire un meilleur jeu qu'ils l'ont fait jusque-là et je pense qu'ils vont passer.
Angleterre, Argentine, c'est ce vendredi. On vous annoncera bien sûr le résultat dans votre journal de la mi-journée juste après pour faire le dernier point, parce que ça sera le dernier point. Non, on en fera encore un lundi prochain dans une semaine pour annoncer quand même le gagnant de cette finale de Coupe du Monde,
oui,
Nouvelle-Zélande,
oui.
Afrique du Sud. Là aussi, je t'avais demandé ton pronostic ou pas encore ?
Ah ben non, tu me l'avais pas demandé, mais...
Eh ben c'est parti, je te demande ton pronostic pour cette finale.
Alors écoute, moi, bien sûr, pour les All Blacks, hein, ils jouent un jeu complet, ces Africains jouent un jeu un peu restrictif, qui gagne, mais bon, on est quand même pour les All Blacks, et je pense que la Nouvelle-Zélande va l'emporter.
Eh ben ça sera à découvrir, bien sûr, ce samedi 28 octobre du rugby local. Aujourd'hui, une grosse journée. Hein.
Oui, on a une très grosse semaine. Ce matin, on avait un festival aussi scolaire Coupe du Monde de rugby à Papéari. Et on réitère jeudi, on va avoir plus de 900 élèves sur les deux sites. Donc, c'est du toucher. On a des écoles et des classes et des élèves qui se sont entraînés, initiés pendant plusieurs mois.